Merci d'écouter RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Osoui.
Mercredi 13 novembre, bonsoir à tous, on est dans les starting blocks de l'info. C'est parti pour 3 heures, c'est votre session de la soirée, soyez les bienvenus, les temps forts à venir. Le décryptage dans 10 minutes, 8 jours après l'élection présidentielle américaine. Véronique Rigolet, gros plan sur Donald Trump, le climato-sceptique.
Oui, est-ce que le second mandat de Donald Trump sera encore plus dévastateur pour le climat? Et surtout, comment lutter contre le réchauffement climatique sans les États-Unis? On en parle ce soir avec David Levaille, chercheur à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
À tout à l'heure, juste après, ce sera le débat du jour qui s'intéressera aux coalitions. Est-ce que ce projet politique est encore possible dans un monde miné par les antagonismes? Écho évidemment à la situation en Allemagne où le chancelier Olaf Scholz s'exprimait ce mercredi devant le Bundestag, une semaine après l'éclatement de la coalition au pouvoir. 18h10 TU, le grand journal du soir. Nous irons à Washington où le sortant reçoit le futur président. Joe Biden accueille Donald Trump. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition. 19h10 TU, votre session reportage Accent d'Europe qui se penchera ce soir sur la mortalité sur les routes avec des reportages en Irlande et en Turquie. Enfin, le grand reportage ce soir au Kerala sur la côte de l'Inde, le pays des dieux englouti par les eaux.
RFI.
Mais pour débuter, c'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Et à la une, les images d'un otage à Gaza.
Oui, en Israël, le forum des familles des otages dénonce une vidéo horrible. Des images publiées par le djihad islamique montrent un otage retenu en captivité dans la bande de Gaza. Le jeune homme barbu s'identifie comme étant Sacha Troupanov, un israélo-russe enlevé le 7 octobre 2023. Les précisions à Jérusalem de Michel Paul.
Sacha Troupanov parle de son année de détention marquée par des privations, manque de nourriture, d'eau, pas d'électricité. « Je n'ai plus accès aux produits d'hygiène basiques », affirme l'otage. « Mon plus grand danger, dit-il encore, c'est l'armée israélienne. » Il appelle les Israéliens à intensifier les manifestations pour faire pression sur le gouvernement israélien. « Ne croyez pas ce que vous raconte Netanyahou », dit-il encore. Sacha Troupanov est détenu par le djihad islamique. Sa compagne, Sapir Cohen, sa mère et sa grand-mère ont été libérés en novembre dernier lors de l'unique trêve à Gaza. Son père Vitali a lui été tué lors de l'attaque palestinienne le 7 octobre. « Je suis soulagé de voir mon fils vivant, mais je suis très inquiète d'entendre ce qu'il dit », souligne sa mère Yelena, qui a demandé aux médias de diffuser la vidéo. Sacha Troupanov possède également la nationalité russe et récemment on a indiqué que le Kremlin tentait d'obtenir sa libération en compagnie d'autres binationaux. En Israël, on estime en tout cas que le djihad islamique signale clairement sa volonté de négocier un échange de prisonniers. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Au Liban, une nouvelle frappe israélienne ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. De sources libanaises, il y a au moins 6 morts. Pour la troisième fois cette semaine, l'armée israélienne avait appelé la population à fuir. Cette banlieue est maintenant désertée par la plupart de ses habitants. En France, un gala des forces francophones sionistes au service de la puissance d'Israël. C'est, je cite, le programme d'un dîner organisé ce soir à Paris, dans un lieu encore tenu secret. Pierre-Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Ce dîner de gala intervient dans un contexte tendu après les violents affrontements de la semaine dernière à Amsterdam et alors que des rassemblements pro-palestiniens ont lieu toujours à Paris ce soir.
Oui, pour faire entendre leur mécontentement, car contre 260 euros, quelques centaines de convives devraient assister dans quelques minutes au gala organisé chaque année par l'association Israel is Forever. Objectif, festoyer entre personnes qui partagent les mêmes convictions politiques, en l'occurrence une ligne extrêmement droitière et sioniste. Certains participants annoncés font déjà polémique, à commencer par l'organisatrice, l'avocate franco-israélienne Nili Kupfer-Naouri, qui avait assuré sur un plateau de télévision qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, connu pour son soutien inconditionnel à l'annexion des territoires palestiniens, ne sera, lui, pas présent physiquement, comme cela avait été annoncé, mais devrait s'exprimer en visioconférence, nous ont confié les organisateurs. Très décrié par plusieurs associations et partis de gauche, la tenue de ce gala a été autorisée par le tribunal administratif qui avait été saisi. En parallèle, donc, une marche pro-palestinienne, elle aussi autorisée, organisée notamment par la France Insoumise, Europe Écologie, des Verts et Urgence Palestine s'élancera dans quelques minutes de la gare Saint-Lazare vers la place de la République à Paris. Un autre rassemblement non loin des salons Hoche où pourrait se tenir le gala est lui aussi prévu, cette fois à l'appel de plusieurs associations juives de gauche.
Pierre-Olivier, merci. On rappelle aussi qu'un match de football sous très haute surveillance policière opposera demain soir au Stade de France les Bleus à l'équipe d'Israël, match de Ligue des Nations. Une semaine après son élection, Donald Trump rencontre à la Maison-Blanche le président démocrate Joe Biden. Rencontre destinée à montrer la volonté des deux d'amorcer une transition en douceur. Donald Trump assure que la transition sera la plus fluide qui soit. Il a déjà formé une partie de son cabinet. La plupart de ses nominations doivent être approuvées par le Sénat, une procédure qu'il essaie de contourner en procédant à des nominations d'urgence. C'est ainsi qu'Elon Musk, le milliardaire, se voit confier une toute nouvelle mission sur l'efficacité gouvernementale. Direction maintenant le Mozambique, où la journée s'est passée dans le calme malgré les appels à manifester lancés par l'opposant Venancio Mondlane. Le candidat à la présidentielle entendait mobiliser contre les fraudes électorales. Le mouvement de protestation a commencé il y a près de 15 jours et sa répression a déjà fait une trentaine de morts. Dans la capitale Maputo, les boutiques du centre sont restées fermées aujourd'hui alors qu'en banlieue, la vie suit son cours. Reportage de Paul Lorgerie.
Sur l'avenue des accords de Lusaka, Nelson, 23 ans, attend son chiapa, un minibus, pour aller travailler. Ce n'est pas l'envie de manifester qui lui manque, mais plutôt les moyens.
Aujourd'hui, certains peuvent se permettre d'aller manifester. Mais nous qui sommes là avons besoin de gagner notre pain pour nourrir notre famille. Je ne suis pas fatigué des manifestations. Une autre fois, je les rejoindrai peut-être. Ça dépend.
L'appareil sécuritaire déployé ce matin a de quoi décourager. D'autant qu'hier, le commandant de la police, le général Bernardino Raphaël, a prévenu. Les forces de l'ordre sont prêtes à affronter ce qu'il a qualifié de terrorisme urbain.
Il ne s'agit pas de manifestations pacifiques, mais de manifestations violentes, à tendance subversive dont l'intention est de porter atteinte à l'ordre constitutionnel mozambicain. Les manifestations, ça suffit. On retourne au travail.
Depuis sa cachette, Venancio Mondlane continue de mobiliser ses troupes sur Facebook. Ce matin encore, il postait une vidéo.
On ne reculera pas, malgré les paroles de délire profond, de désespoir même, du commandant général Bernardino Raphaël. Si la police veut utiliser la violence, nous rappelons que le peuple a le droit de légitime défense.
D'après le bureau du procureur général, plus de 200 procédures pénales ont été ouvertes dans le cadre des manifestations.
Paul Lorgerie de la rédaction Afrique. Chaque jour depuis septembre, les Ukrainiens se réveillent au son des explosions. Il était tôt ce matin quand la capitale Kiev a été visée par une attaque russe combinée de missiles et de drones. Un homme a été blessé. À la COP29 sur le climat, les chefs d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune. Hier, le président azerbaïdjanais, pays hôte, a marqué les esprits en prenant la défense des énergies fossiles. Le premier ministre albanais, Edi Rama, lui a répondu aujourd'hui sous forme de question. Quel est l'intérêt de continuer ces conférences? Un extrait de son intervention quelque peu dépité, recueilli par Simon Rosé.
J'ai décidé de mettre de côté le discours que j'avais bien préparé. Parce qu'hier, je regardais les discours dans la loge des officiels. Le son sur les télévisions était coupé. Les gens qui étaient là buvaient, mangeaient, prenaient des photos alors qu'on pouvait regarder les discours sans les entendre. Et pour moi, c'est exactement ce qu'on voit dans le monde réel. La vie continue avec ses vieilles habitudes et nos discours pleins de bonnes intentions pour lutter contre le changement climatique. Tout cela ne change rien. Pire, comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, les émissions de carbone continuent d'augmenter d'une COP à l'autre. Je viens d'un petit pays au milieu de l'Europe. Nous sommes fiers d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Mais à quoi cela sert-il pour le futur de la planète si les plus gros pollueurs poursuivent leurs affaires comme d'habitude? Que faisons-nous dans ces conférences encore et encore et encore s'il n'y a aucune volonté partagée d'aller au-delà des mots et de s'unir pour des actions concrètes?
Le Premier ministre albanais Edi Rama à la conférence climat. Enfin, les agriculteurs français sont appelés à la mobilisation à partir de lundi prochain par la FNSEA, qui est le premier syndicat agricole en France. Les filières agricoles de France sont en panne de trésorerie. Elles s'opposent à la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, organisation latino-américaine. Très bonne journée sur RFI. L'information continue avec, dans un instant, décryptage.